Bonsoir, bonjour. Nous sommes donc sur l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Aujourd'hui animée par Brigitte et Michel de Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez retrouver cette émission lundi entre 11h et 12h, toujours sur Radio Galère. Vous pouvez trouver des articles, un agenda, des commentaires sur le site de l'association Palestine 13 en tapant www.assopalestine13.org. Enfin, vous pouvez tout à fait nous écrire par courriel asso.palestine13@gmail.com. asso.palestine13@gmail.com.
Bonjour. L'émission aujourd'hui s'est inspirée d'articles de plusieurs médias, en particulier Média 972, RFI, Le Monde Diplomatique, Mediapart, Orient 21, Nouvelle Obs, Middle East Isle et Libération, et d'autres également médias. Le thème abordé aujourd'hui, c'est la question des binationaux franco-israéliens impliqués dans l'armée israélienne ou comme colons impliqués, implantés sur les terres palestiniennes qui agissent souvent très violemment contre les Palestiniens. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ?
Alors, pourquoi on a choisi ce thème ? C'est parce que la violence de l'armée dans tous les territoires occupés de Palestine, et évidemment particulièrement à Gaza, et celle des colons en Cisjordanie, est d'autant plus insupportable qu'elle touche en priorité la population civile. Mais peut-être encore plus car les actes commis le sont en violation du droit international. Les populations civiles de nombreux pays à travers le monde réagissent, se montrent solidaires à leur mesure, mais elles sont révoltées devant la passivité des gouvernements, de l'Europe, et des instances internationales, même, comme on le verra un peu plus tard, si l'on sent un certain frémissement depuis quelques mois. Et de savoir que des citoyens français vont s'enrôler dans l'armée israélienne, que des colons français participent à des exactions indescriptibles, et ce, en toute impunité, du moins pour l'instant, est totalement inadmissible. Nous tenterons donc dans cette émission d'abord, de mesurer l'ampleur du phénomène, d'essayer de comprendre pourquoi des Français agissent ainsi, même s'ils sont binationaux, et de voir aussi les objectifs des gouvernements israéliens. Je mets au pluriel parce que ça n'a pas beaucoup changé avec le gouvernement actuel par rapport au précédent. Donc de comprendre les objectifs des gouvernements israéliens et les moyens déployés pour faire venir des Juifs du monde entier jusqu'en Israël.
Alors pour cela, nous aborderons les textes du droit international qui permettent de condamner de tels agissements, avant de terminer sur ce que la France fait ou plutôt ne fait pas, et pourquoi en tant que société civile, nous devons continuer à dénoncer ces faits et faire pression sur nos dirigeants pour que des positions claires soient prises et que des actes concrets soient posés. Première question peut-être, combien de Français ou de Franco-Israéliens sont impliqués à Gaza ou en Cisjordanie ?
Alors, je vais répondre en mettant du conditionnel parce que les chiffres sont compliqués à avoir. Il y aurait 100 000 Français vivant en Israël, mais qui n'y sont pas nés, donc des personnes qui y sont arrivées depuis un autre pays. Mais d'autre part, au niveau du consulat de France, on sait qu'il y a 250 000 personnes qui possèdent un passeport français en Israël. Il semble aussi qu'il y a à peu près 20 000 Français qui vivent dans les colonies de Cisjordanie. Alors pourquoi ces déplacements de Juifs français en Israël ? Au début des années 70, les Français qui posent leurs valises en Israël sont en général askénazes, c'est-à-dire originaires d'Europe centrale et orientale. Ils sont plutôt socialistes, élevés dans l'idéal sioniste, laïque, et leur objectif, c'est de s'installer dans les kibbutz et de participer à la construction du pays. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Désormais, les Juifs qui quittent la France sont plus religieux, très majoritairement séfarades, donc originaires des pays méditerranéens, et ils sont souvent poussés par l'antisémitisme, qu'il soit réel ou ressenti. Les chiffres de ceux qui s'engagent dans l'armée sont difficiles à obtenir. Quand, en 2014, un journaliste cherche l'information côté israélien comme côté français, les bouches se ferment. Au Quai d'Orsay, il se fait répondre « Nous n'avons pas d'éléments ni de statistiques à communiquer. » 10 ans plus tard, en mars 2024, quand Mediapart cherche à savoir le nombre de binationaux combattants actuellement pour Israël, ni le ministère français des Affaires étrangères, ni l'armée israélienne n'ont souhaité répondre. Le ministère ne dispose pas de chiffres relatifs au contingent des forces armées israéliennes, évacue le cabinet du ministre Séjourné. Nous ne faisons pas de commentaires à ce sujet, indique le service de communication de l'armée israélienne. On imagine bien que dans le contexte actuel, la démarche de quête de données n'est pas plus simple. Est-ce qu'ils se sentiraient d'un côté comme de l'autre un peu mal à l'aise de donner des chiffres ? Les médias français avançaient en 2018 le chiffre de plus de 4000 pour les Français combattants pour Israël. Ce chiffre est certainement beaucoup plus élevé actuellement. Surtout qu'on sait que les Français représentent la deuxième nationalité émigrant en Israël après les États-Unis, après les Américains. Mais la situation évolue ces dernières années. Vous avez peut-être lu dans un article récent du Monde du 28 janvier, cet article affirme qu'en 2023, dernière statistique connue, environ 87 000 Israéliens ont quitté le pays, donc ont quitté Israël, pour seulement 24 000 qui y seraient arrivés. Évidemment, ces chiffres ne parlent pas exclusivement des Français, mais on peut penser que le mouvement est le même en proportion par rapport aux Français, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de Français aujourd'hui qui quittent Israël que de Français qui arrivent en Israël.
Bien, mais si on ne dispose pas de chiffres précis, on peut essayer quand même de comprendre quelles sont les motivations de ces Français pour partir en Israël, notamment depuis le 7 octobre, avec l'objectif de s'engager dans l'armée israélienne.
Alors, il y a des éléments de réponse. Depuis la création d'Israël, il y a toujours eu des Français qui ont fait leur alia, donc leur ascension en Terre Sainte, et qui sont partis s'installer en Israël. Et depuis la colonisation de la Cisjordanie à partir de 1967, les Français ont toujours été très présents. Nombreux sont ceux qui expriment leur sentiment d'insécurité, leur crainte d'actes antisémites. Il y a aussi les conditions qu'on leur offre quand ils partent là-bas. Avantages pour trouver un logement, un travail. Donc les motifs économiques ne sont pas absents. Ceux qui font leur alia prennent la nationalité israélienne, puisqu'ils viennent pour s'installer en Israël. Et ils s'engagent dans l'armée israélienne. Ils n'ont pas le choix puisque c'est obligatoire. D'autres choisissent de ne pas devenir israéliens et de rejoindre l'armée dans le cadre des programmes de volontariat que nous aborderons plus tard, en sachant qu'ils ne sont pas israéliens, mais ils sont automatiquement juifs, puisque pour faire partie d'un de ces programmes, une des conditions de base est d'être de religion israélite. Le média Middle East Eye écrit « Bien qu'une partie significative des Juifs de France ne ressente pas d'ancrage particulier au Proche-Orient, l'atmosphère politique les y renvoie perpétuellement. Lorsque le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, défend inconditionnellement le gouvernement Netanyahou, ses responsables renforcent pour certains l'idée d'un lien entre la politique israélienne et les citoyens français de confession juive. D'ailleurs, désormais, le gouvernement Netanyahou usent à tort et à travers de cette rhétorique, profitant de toute attaque contre des Juifs de par le monde pour appeler ces derniers à immigrer en Israël. Et c'est souvent, dès qu'il y a un acte antisémite en France, on a vu combien de fois des déclarations de Netanyahou ou tel rabbin incitant des Juifs de France pour qu'ils se sentent en sécurité à partir en Israël. Ces éléments de langage servent en effet les intérêts politiques israéliens, en permettant d'une part de créer une similitude entre les actes antisémites en France et les événements israélo-palestiniens. En d'autres termes, ceux qui jugent utile ou ceux qui attaquent sur le sol français des Juifs au nom du peuple palestinien, en fait, renforcent dans l'esprit d'une partie de la communauté juive l'idée qu'elle fait face à la même menace que les citoyens israéliens. Donc toujours ce parallèle entre ce qui peut se passer en France et ce qui se passe au Moyen-Orient.
Donc on a affaire à un processus qui conduit à gommer toutes les motivations strictement nationalistes des combattants palestiniens. Ainsi, la colonisation, l'occupation, l'emprisonnement d'enfants, toutes ces injustices perpétrées par le gouvernement israélien contre la population palestinienne sont perçues à minima comme un moindre mal pour la sécurité du peuple juif, au pire comme l'affirmation par la force des droits inaliénables de ce peuple sur la Terre Sainte. Et quand on regarde que ces propos ont été tenus, ont été rapportés par le média Middle East Eye en février 2017, donc ça fait plus de 7 ans, quelle étonnante actualité.
Oui, on a vraiment l'impression que ce média aurait pu écrire exactement la même chose aujourd'hui. Donc on voit que les choses se prolongent. Peut-être qu'avant de voir un peu les objectifs du gouvernement israélien, nous pouvons faire une courte pause musicale pendant quelques instants.
Thank you.
veux poursuivre. Quels sont les objectifs du gouvernement israélien? Quels moyens utilise-t-il pour attirer en Israël les juifs du monde entier?
Alors effectivement, la question se pose, mais en fait, si on regarde l'histoire, les choses sont bien rodées, et depuis avant la création d'Israël, ce phénomène de faire de peupler le maximum Israël avec des juifs du monde entier a existé avant la Seconde Guerre mondiale, et évidemment s'est accéléré après. Alors, en France même, on a fait tout à l'heure référence au rôle du CRIF et de son soutien inconditionnel au régime Netanyahou. Mais des moyens concrets ont été aussi mis en place pour inciter au départ et faciliter l'intégration en Israël dans l'armée comme dans la société civile. Alors, je voudrais revenir sur un des moyens dont on parle peu mais qui est assez incroyable. Ça a été la création de ce qu'on appelle l'AMI, l'agence... ça veut dire Alia et meilleure intégration. Donc c'est une agence pour l'emploi qui a été mise en place dans le cadre d'une convention avec le consulat de France à Tel Aviv et donc financée par les deniers publics, mais français. Avant d'aller plus loin, je dois dire que on n'a pas pu vérifier si cette agence existe aujourd'hui. Tous les articles qui y font référence sont relativement anciens. Alors, est-ce qu'elle s'est faite plus discrète face aux critiques qui ont entraîné son existence? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a sévi pendant un bon moment. Et cette agence pour l'emploi, comme il était dit sur son site, donne toutes les clés pour mener à bien la préparation pratique des étapes nécessaires à l'accomplissement de l'ALIA. Et elle soutient également les futurs immigrants encore résidents dans l'Hexagone afin de faciliter leur contact avec l'ensemble des administrations israéliennes chargées de l'ALIA, donc l'agence juive bien sûr, mais aussi, le cas échéant, le ministère de l'Intégration et le ministère de l'Intérieur. Ce site, dont un des partenaires est le ministère des Affaires étrangères français, propose d'aider à l'installation des arrivants dans différentes villes, y compris dans des colonies israéliennes situées en territoire palestinien occupé. Rappelons que toutes les semaines, ce même ministère condamne la colonisation, qui est, selon les statuts de la CPI, de la Cour pénale internationale, un crime de guerre. Donc si nous avons souhaité parler de l'AMI, c'est quand même assez incroyable de se dire que la France met en place des circuits pour favoriser le départ de ses citoyens dans un pays étranger pour s'installer dans des lieux qui, pour certains, sont absolument condamnés par le droit international, et en sachant que beaucoup d'entre eux vont devenir soldats et donc là aussi vont certainement être entraînés dans des crimes de guerre.
Alors, parallèlement, en Israël, le gouvernement israélien a mis en place également un certain nombre de programmes, soit civils, soit militaires, pour inciter des juifs non israéliens à venir en Israël. Ceux-ci doivent varier dans le temps et en fonction des besoins de l'État. Et donc, nos informations ne sont pas forcément de pleine actualité, mais elles permettent de comprendre la philosophie de ces programmes. D'abord, différents programmes permettent à tout juif non israélien de porter l'uniforme dans l'armée sans pour autant faire être des citoyens israéliens. Quelle est l'origine? L'origine, elle remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand quelques milliers de volontaires appelés les Mahalniks, issus de dizaines de pays et partisans de la cause sioniste, sont venus soutenir par les armes la création de l'État d'Israël dès l'indépendance en 1948. L'objectif était d'aider la jeune armée israélienne en lutte contre les pays arabes voisins. Mais le principe est resté le même aujourd'hui. Le programme d'accueil des juifs étrangers dans les unités combattantes a gardé le nom de Mahal, donc en référence au mot Mahalniks, et il incorpore des volontaires pour des durées jusqu'à 18 mois, y compris pour des missions dans les territoires occupés palestiniens.
Ah, donc ce programme dont tu viens de parler confirme bien ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait c'est un long processus depuis à minima la création de l'État d'Israël. Alors, ce programme est d'accompagner ce qu'ils appellent les lone soldiers, c'est-à-dire des volontaires qui n'ont ni attache familiale dans le pays, ni la nationalité israélienne. Et là, l'affectation varie en fonction du profil médical et des capacités physiques de chacun. Toutes les unités régulières leur sont accessibles, hormis les troupes d'élite. Ça, c'est donc pour ceux qui suivent le programme Mahal. Mais d'autres possibilités de séjour dans l'armée existent pour les juifs non israéliens. Ils vont, donc là, c'est tous ceux qui ne veulent pas faire leur alia, qui ne sont pas décidés sur le moment à s'installer réellement en Israël. Donc ils sont bien juifs, ce qui est absolument indispensable, mais ils ne prennent pas la nationalité. Donc ces programmes mis en place vont de 3 semaines, c'est le programme SAR-L, qui est réalisable dès l'âge de 16 ans, donc de 3 semaines à 2 mois. Et là, on peut parler du programme MARVA, qui est d'ailleurs le seul à être facturé à hauteur d'environ 1 500 $. Dans ces deux derniers cas, donc pour les deux programmes de SAR-L et de MARVA, les volontaires gardent un statut civil, même s'ils portent l'uniforme. Et ils vivent dans des casernements de l'armée régulière. Ils sont cantonnés à des tâches de servitude dans des bases militaires logistiques pour SAR-L, mais ils reçoivent un entraînement au combat militaire pour ceux qui sont dans le programme MARVA, avec, dans les deux cas, des activités complémentaires « éducatives » entre guillemets sur Israël et le sionisme. Et les recrutements se font en France par des officiers de l'armée israélienne, donc certainement par le biais des consulats d'Israël en France. À toi.
Alors, on voit que la raison de cet accueil dans l'armée est de permettre à de jeunes juifs de partout dans le monde de renforcer la relation avec Israël. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, relation avec Israël, entre Israël et le peuple juif, en se portant volontaire pour intégrer l'armée israélienne ou pour la connaître. Le programme des forces de défense israéliennes vise à contribuer à la défense d'Israël, certes, mais aussi de fournir de jeunes leaders compétents et enthousiastes aux communautés juives.
Alors ça, c'est la déclaration d'Israël, hein, c'est ce que pense Israël.
Bien sûr.
Alors en fait, il nous faut aussi parler de deux derniers programmes dont nous avons connaissance. C'est que quelqu'un qui craint de s'engager seul peut quand même rejoindre un autre programme qui s'appelle Garin Sabar, qui propose un enrôlement progressif. Donc la personne débute par une vie collective au sein d'un kibbutz avant d'être affectée dans une unité. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas franchement décidés, les choses peuvent se faire progressivement. Et puis il existe aussi un autre programme qui s'appelle Atouda, qui s'adresse plus spécifiquement aux étudiants. Ce programme leur permet de poursuivre leurs études au sein d'une école israélienne ou d'une université israélienne et de faire leur classe durant leur congé. L'avantage pour un jeune Français qui part dans ces conditions, c'est que l'armée prend en charge les frais universitaires à hauteur de plus de 2 000 € par an. Et au terme de leur cursus scolaire, ces étudiants s'engagent à terminer leur service militaire de 3 ans pour les garçons comme pour les filles. Donc on leur paye leurs études. Pendant leurs congés ou les week-ends, ils commencent à être considérés comme étant militaires. Et pour finir leur cursus de 3 ans, ils font ça après la fin de leurs études. Et tout ça permet à ces jeunes volontaires de bénéficier d'avantages. Entre autres, ils ont une solde équivalente à celle des autres militaires, mais qui ne sont pas imposables. Et plusieurs organismes proposent par ailleurs des aides pour se loger ou se nourrir. Donc il est vrai que pour un étudiant qui étudie dans ces conditions-là dans des universités israéliennes, non seulement on lui paye les frais à hauteur de 2000 euros, mais en plus il a une solde mensuelle équivalente à celle comme s'il était militaire engagé. Bon, évidemment, à contrario, il doit finir son service militaire après. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut analyser l'implantation de colons et l'engagement dans l'armée de citoyens français au regard de ce fameux droit international?
Alors, sur le plan habituel, auparavant, il était de notoriété qu'Israël, depuis sa création, s'abstenait de toute obligation à respecter le droit international. Ceci bénéficiant pour cela du droit de veto exercé par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc Israël était complètement libre de faire ce qu'il bon lui semblait. Mais l'ampleur du conflit entre Israël et la Palestine depuis le 7 octobre a permis des avancées quand même malgré tout sur trois points importants. C'est intéressant de les rappeler. Le premier, c'est l'accusation du gouvernement israélien d'intention de génocide à Gaza par la Cour internationale de justice. Le second point, c'est la double inculpation du premier ministre Netanyahou et de son précédent ministre de la Défense, Yoav Gallant, par la Cour pénale internationale. Ce sont deux points dont nous avons longuement parlé dans une précédente émission. Et enfin, il y a un troisième point qui est très important, c'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 18 septembre 2024 qui a voté à une écrasante majorité l'illégalité de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Cette résolution s'appuie sur l'avis donné par la Cour internationale de justice en juillet 2024 et cette résolution exige la fin de l'occupation de la Palestine par Israël dans les 12 prochains mois pour se conformer aux obligations par le droit international.
Oui, c'est vraiment une résolution qui est importante de rappeler parce que les choses sont dites vraiment très clairement sur la condamnation d'Israël et l'injonction qui est faite à Israël de cesser toute occupation dans un délai de 12 mois.
Alors, dans ce contexte, émerge, et par rapport aux événements qui sont déroulés entre Israël et la Palestine, émerge l'actualité du droit humanitaire international.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend exactement par le droit humanitaire international?
Alors, c'est un droit qui, en fait, est un droit qui codifie d'une certaine manière les conflits armés internationaux et qui repose sur plusieurs textes fondateurs assez anciens. Le plus important, c'est la 4e Convention de Genève de 1949, qui énonce des règles fondamentales sur la protection des populations civiles en temps de guerre. Celles-ci sont résumées en trois règles fondamentales ou cardinales. La première, c'est la distinction que l'on doit faire entre les civils et les combattants, entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. La deuxième règle, c'est la proportionnalité, qui interdit que les dommages d'une attaque militaire soient disproportionnés par rapport à l'avantage militaire attendu. Et puis la troisième règle, c'est la précaution pour éviter ou pour réduire au minimum les dommages causés à la population civile et aux biens de caractère civil.
Oui, et donc je pense que tu vas pouvoir nous montrer que ces trois règles cardinales fondamentales ne sont absolument pas appliquées par Israël et particulièrement depuis un an dans ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous rappeler des événements précis?
Bien sûr. Et là-dessus, on a des éléments assez précis. Après un an d'intervention d'Israël sur Gaza, on a pu dénombrer plus de 44 000 morts palestiniens, plus de 16 000 enfants, plus de 500 médecins, infirmiers et secouristes assassinés, 187 journalistes assassinés, 90 hôpitaux et cliniques détruites, autant toutes les écoles détruites, les crèches également, les universités. Il y avait 11 universités à Gaza. Elles ont été détruites. Une famine qui a été planifiée et près de 2 millions de personnes déplacées. Donc, face à un tel bilan, il est clair qu'il est dénoncé des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et l'intention de génocide. En Cisjordanie, après le 7 octobre, on a dénombré plus de 800 Palestiniens assassinés par l'armée d'occupation ou par les colons. Le cessez-feu était à peine entré en vigueur à Gaza le mois dernier que les colons juifs se sont déchaînés en Cisjordanie, incendiant des villages palestiniens. Dans la foulée, l'armée israélienne a bloqué toute la Jordanie, empêchant tout déplacement de milliers de personnes. Et une opération extrêmement violente était lancée par l'armée israélienne dans la ville de Jenin et dans le camp de réfugiés au nord qui se trouve au nord en Cisjordanie. Mobilisant troupes, forces spéciales, services de renseignement, aviation, et en moins de 3 heures, 10 personnes déjà été assassinées dans la rue, dont des enfants. Les abords de l'hôpital de Jenin étaient complètement défoncés pour en empêcher l'accès. Israël justifiait les opérations en Cisjordanie comme étant une opération contre-terroriste. Voilà où nous en sommes.
Voilà, nous allons faire une deuxième pause musicale autour, si je ne me trompe pas, de Fayrouz. Thank you. Alors nous reprenons l'émission Une heure en Palestine avec d'abord nos excuses parce que c'était pas du tout une musique de Fayrouz, mais c'était de la musique traditionnelle arabe. Voilà. Donc juste avant la pause, nous vous avions rappelé l'état catastrophique des dégâts causés par la guerre non seulement à Gaza mais en Cisjordanie et en violation totale du droit humanitaire international qui avait été rappelé juste avant. Et devant ces faits, devant les avancées fondamentales de la Cour pénale internationale, de l'ONU, qu'on a rappelé donc en début d'émission, devant une opinion publique qui, semaine après semaine, dans toute la France, demande un cessez-le-feu durable, la France ne peut pas continuer à soutenir de façon quasi institutionnelle l'État juif d'Israël. Elle peut être considérée comme complice si elle ne pose pas un certain nombre d'actes, et notamment envers les franco-israéliens. Et au-delà de nos juridictions, au-delà de l'État, nos juridictions nationales sont aussi concernées. La notion de compétence universelle autorise n'importe quelle juridiction nationale à poursuivre les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Et on va repréciser le fait que des plaintes ont été déposées, mais pour l'instant, elles n'ont pas abouti.
Donc, alors, concrètement, voilà, on va vous présenter un cas documenté à Gaza qui a amené le député de la France insoumise Thomas Porte à saisir la justice pour un franco-israélien qui s'est possiblement rendu complice d'actes de torture dans la bande de Gaza. Il s'appuie sur une vidéo qui dure 45 secondes, qui a été filmée de nuit, et on y voit 5 soldats revêtus d'uniformes israéliens, pour certains d'entre eux cagoulés, qui s'affairent autour de prisonniers. Ils les font descendre de l'arrière d'un camion. Les prisonniers ont les yeux bandés, les mains attachées et portent une combinaison blanche identique pour tous. L'homme qui filme les insulte violemment et en français. Je cite « T'as vu ces enculés, mon neveu, ces fils de putain ?» L'un des prisonniers est torse nu. Le francophone qui tient la caméra s'amuse. « Regarde, il s'est pissé dessus. » Puis il ajoute « Je vais te montrer son dos, tu vas rigoler. » Ils l'ont torturé pour le faire parler. « T'as vu son dos ?» Et sur le plan suivant, on voit effectivement le dos du prisonnier couvert de cicatrices. Le 21 mars 2024, donc le député Thomas Porte a saisi la procureure de la République et le parquet national antiterroriste qui compte en son sein un pôle spécifique dédié aux crimes contre l'humanité.
Mais donc il y a cette action précise de Thomas Porte qui pour l'instant n'a pas débouché. Mais il faut savoir aussi que plusieurs organisations ont engagé des actions en justice en l'encontre de nationaux ou de binationaux israéliens. C'est un travail complexe dans lequel les procédures peuvent être annulées ou durer plusieurs années. Il y a d'abord la plainte simple qui a été déposée par la Ligue des droits de l'homme en France en septembre 2024 auprès du parquet du pôle crime contre l'humanité qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part du procureur du fait de l'absence de preuves matérielles pour ouvrir une enquête pénale. La Fédération internationale des droits de l'homme, avec d'autres organisations, ont déposé ensuite, en décembre 2024, une plainte, cette fois avec constitution de partie civile à l'encontre d'un franco-israélien qui a servi dans l'armée israélienne à Gaza, qui est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, torture. La plainte déposée avec constitution de partie civile enclenche automatiquement l'ouverture d'une information judiciaire. Et donc on voit que les associations essayent de trouver des biais pour que les affaires ne soient pas classées ou ne soient même pas traitées. Donc là, la constitution de partie civile va permettre que une enquête soit diligentée.
Voilà un petit peu ce qui peut se dérouler actuellement en France. Mais c'est intéressant également d'aller au-delà et de citer la fondation belge In Rajab. On expliquera l'origine de ce nom, qui s'est fixé pour objectif de remettre en question le modèle d'impunité d'Israël et a transmis les noms de plus de 1000 soldats israéliens, tous identifiés individuellement à la Cour pénale internationale, sur la base d'empreintes numériques provenant souvent de soldats israéliens lors de leurs engagements dans des opérations militaires à Gaza. À Gaza, au Liban et également en Syrie. De nombreux individus ont la double nationalité. On peut citer, il y en a 12 de France, 12 des États-Unis, 4 du Canada, 3 du Royaume-Uni et 2 des Pays-Bas. Alors, juste pour rappeler qui est In Rajab, c'est une petite fillette de 6 ans qui a été tuée par l'armée israélienne alors qu'elle, avec sa famille, elle essayait de s'enfuir pour échapper à des tirs de chars israéliens. Ces tirs ont décimé toute la famille. Restée survivante, cette petite fille de 6 ans et sa cousine qui avait 15 ans, qui essayait d'appeler le Croissant Rouge pour être secourue, elle a été tuée. Cette petite fille est restée toute seule, seule survivante, avec un appel téléphonique d'urgence de 3 heures avec le Croissant Rouge qui avait alerté les autorités, l'armée israélienne. Il n'en demeure pas moins que la petite a été tuée également par l'armée israélienne et que les secouristes qui ont essayé d'intervenir, deux d'entre eux ont été également tués. Donc c'est un événement qui a marqué, qui a été évoqué dans les médias et qui a donné donc le nom à cette fondation belge.
Alors on peut dire que on vient de citer donc des moyens de pression qu'il y a par ces conclusions de cette fondation belge, mais aussi par les poursuites engagées par le député Thomas Porte, par la LDH. Et on sait aussi que, par exemple, des pays ont pris des mesures pour interdire sur leur territoire des soldats israéliens identifiés comme ayant commis des crimes de guerre. Mais en fait, qu'en est-il de la France ? Parce qu'il faut quand même savoir que tous ces actes ont, donc de poursuite ont un impact certain en Israël. Ainsi, le journal conservateur The Times of Israel, dans son édition du 4 décembre 2024, indique que l'armée israélienne a mis en garde une trentaine de soldats et officiers ayant combattu à Gaza, leur demandant d'éviter de se rendre à l'étranger après le dépôt, entre guillemets, par des groupes pro-palestiniens et anti-israéliens, de plaintes pour crimes de guerre. 8 d'entre eux se trouvant à l'étranger, ils ont été sommés de revenir sur le territoire israélien, craignant qu'ils puissent être arrêtés et interrogés. Donc c'est quand même un poids très important. Ça veut dire que tous les soldats israéliens, qu'ils soient franco-israéliens ou israéliens, qui auraient été identifiés, qui dans le nom auraient été signalés à la CPI, comme on a vu que ça l'a été déjà pour 1000 d'entre eux, qui auraient envie de voyager pour retrouver leur famille ou pour des loisirs ou autres, ont un risque, et Israël le mesure par ce qu'il vient de prendre comme décision, ont un risque d'être arrêtés dans le pays dans lequel ils vont se rendre.
Alors, par rapport à ces inculpations ou ces risques d'inculpation, c'est quand même intéressant de rappeler, en février 2024, le même journal rappelait que le chef d'état-major israélien, M. Halevi, avait envoyé une missive à l'ensemble des soldats étant à Gaza pour leur rappeler que, premièrement, que l'armée ne commet pas de carnage, qu'elle n'agissait pas par esprit de vengeance et qu'elle ne commettait pas de génocide dans la bande de Gaza. Voilà la déclaration du chef d'état-major de l'armée israélienne.
Oui, c'est un cynisme incroyable. En fait, c'est quelque part pour que ces soldats se persuadent qu'ils sont dans le bon chemin et qu'ils sont couverts par leur gouvernement.
Alors, essayons de, dans ce contexte-là, de voir la position de la France. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le 30 novembre 2023, la Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelait au gouvernement français que le droit international humanitaire dont on vient de parler n'est ni une promesse ni une œuvre de charité, mais c'est un corpus juridique qui engage toutes les parties du conflit à le respecter. Il y a tous les États du monde à le faire respecter. Malgré tout, on pourrait dire que, au vu des déclarations du gouvernement, ce rappel n'a pas suffi.
Et alors, quelle a été la suite? Est-ce que la CNDH a essayé de renouveler son interpellation du gouvernement français?
Absolument. Et très récemment, dans une déclaration du 23 janvier 2025, cette commission consultative interpellait la France sur ses obligations en matière de droit international humanitaire. Elle appelait le gouvernement à montrer l'exemple et à prendre des mesures concrètes pour ses engagements. On peut en citer trois. Première interpellation, la France doit à ce titre retirer la déclaration précise du 27 novembre 2024 relative à une prétendue immunité relative à un chef de gouvernement frappé d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. Il s'agit bien évidemment du Premier ministre Netanyahou. Et de plus, de coopérer pleinement avec la CPI et à supprimer tous les obstacles à l'exercice de la compétence universelle, c'est-à-dire de poursuivre devant les juridictions. Ça, c'était la première interpellation. La seconde, c'était à la suite des mesures conservatoires qui avaient été rendues par la Cour internationale de justice suite à la plainte d'intention de génocide de la part d'Israël. Ces mesures conservatoires, la France ne doit en aucune manière les prendre, doit en toute manière les prendre et
de prévenir
le génocide à Gaza. C'est un des points fondamentaux de la Convention de 1948. Et puis le troisième point, c'est que la France doit cesser tout transfert d'armes à destination de tout État à travers le monde qui ne saurait, s'il existe le moindre doute quant à une utilisation de ces armes non conforme au droit international.
Alors, pour que les massacres, les destructions, les emprisonnements cessent, pour que le cessez-le-feu à Gaza ne soit pas que temporaire et que la guerre ne reprenne pas dès la libération de tous les otages et que les agressions massives en Cisjordanie cessent, pour que l'UNRWA puisse poursuivre ses actions humanitaires indispensables dans tous les territoires occupés, là je fais juste une incise dans le sens où vous savez que depuis le jeudi dernier, l'UNRWA n'a plus le droit d'exercer à Jérusalem-Est et à Gaza. C'est-à-dire que tout le personnel international de l'UNRWA a dû quitter Israël n'ayant plus de permis de séjour et évidemment les territoires palestiniens, mais que l'UNRWA affirme que les membres de leur personnel qui sont palestiniens vont continuer autant que faire se peut à agir dans les territoires et en particulier à Gaza. Mais il faut savoir qu'ils vont agir avec beaucoup, beaucoup plus de difficultés et de dangers. Parce que tant que l'UNRWA était autorisé, tout déplacement de l'UNRWA ou toute activité était préalablement... l'UNRWA en informait les forces israéliennes pour essayer que leurs camions, leurs déplacements, qu'ils ne soient pas bombardés pendant ce temps-là. Et que le fait que maintenant ils soient interdits fait que ils sont menacés comme n'importe qui. De toute façon, déjà pas mal de leurs salariés avaient été tués, mais là ce sera encore dans des conditions encore plus catastrophiques. Et donc face à tout ça, à tout ce qu'on voit actuellement, nous pensons que, enfin nous, société civile, nous associations, syndicats, partis, nous devons continuer à faire pression sur notre gouvernement et sur l'Europe. Des actions concrètes sont proposées à Marseille toutes les semaines par différentes associations et vous pouvez les trouver sur le site de Palestine 13 dans l'agenda qu'on met à jour régulièrement. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, dès ce soir, donc le 12, mercredi 12, à 20h, en avant-première, vous trouvez aux variétés, il y a le film From Ground Zero, qui est plus, pas sur la situation actuelle, mais qui est sur Sabra et Shatila, et qui, paraît-il, parce que nous ne l'avons pas vu, est très intéressant. Nous vous rappelons également les manifestations qui ont lieu absolument tous les dimanches à la Porte d'Aix à 14h et puis de nombreuses autres manifestations, mais on ne peut pas vous les énumérer. Elles seront donc sur l'agenda de Palestine 13 que vous trouvez très très facilement. Et vous pouvez aussi être demandé à recevoir la newsletter qui paraît tous les vendredis et où là aussi tous les événements sont répertoriés, passés ou présents. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez vous joindre aux actions actuellement en cours. Ce qui nous semble important, c'est qu'on continue tous à agir pour réclamer le droit, rien que le droit. Voilà, donc nous avons terminé cette émission sur plus spécifiquement axée sur le droit sur les problèmes des binationaux franco-israéliens. Et pour terminer, comme il nous reste quelques minutes, nous avons envie de vous lire l'un ou l'autre poème qui sont tirés d'un petit opuscule qui s'appelle « Que ma mort apporte l'espoir », poème de Gaza, édité par Orient 21 et Libertalia. Et dans ce livre, qui est à la fois en arabe et en français, il y a donc un certain nombre de poèmes, il n'y a que des poèmes écrits par des Palestiniens, mais dont toute une partie sont écrits après l'offensive Glaive de fer, donc après le 7 octobre. Et on ne peut être qu'abasourdi, je ne sais pas quel terme employer, de se dire que alors que les Palestiniens sont déplacés, n'ont plus de maison, vivent dans des conditions terribles de terreur, etc., ils parviennent encore à s'exprimer par la poésie, ce que je trouve absolument incroyable. Donc je vais vous lire un poème de Othman Hussein, poète de Gaza, poème qu'il a écrit sous les bombardements le 21 octobre 2023. Elle était tranquillement assise, la guerre, puis elle s'est levée, timide les premiers jours, dissimulant son visage et son souffle. Le premier mot « mort » aura un nom et un numéro. Et peut-être se rappellera-t-on jusqu'à la couleur de ses chaussures. Fera-t-on résonner trompettes et tambours? Il aura de la chance. Le martyr, dira-t-on de lui. Puis les nombres se multiplient, sans numéro, sans récit. La guerre s'est enfin dressée, grande discorde funeste. Elle ne s'était point assoupie, comme elle l'avait prétendu. Et un deuxième poète, écrit par Nisrin Souleyman, qui est une écrivaine aussi de Gaza, écrit toujours sous les bombardements le 25 octobre 2023. Comment vas-tu? Je suis un tas de gravats. Comment vas-tu? Je suis de la poudre et des éclats d'obus. Comment vas-tu? Je dors sous les décombres depuis 14 jours. Comment vas-tu? Je suis à Gaza. Comment vas-tu? Je suis dans une fosse commune humide. Ils m'ont déposé là avec mon mari, mon père, ma mère et mes enfants aussi. Je ne serai pas seule dans l'obscurité. Comment vas-tu? Mon chat, je l'ai oublié dans la tour numéro 5 des tours d'Al-Azhara. Comment vas-tu? Je vais survivre. J'ai entendu dire que le ciel nous protège lorsque la mort nous troque contre des obus. Comment vas-tu? Je suis en quête de pain, d'eau et d'un calmant pour la douleur. Comment vas-tu ? J'ai peur, mais pas un infime détail n'en transparaît sur mon visage. Comment vas-tu ? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je subis avec tous les Gazaouis une guerre d'extermination. Je ne vais pas bien. Voilà, nous voulons terminer par un hommage donc aux Gazaouis qui vivent cette terrible situation depuis des mois et des mois. Donc on vous redit que vous pouvez réécouter l'émission lundi entre 11h et 12h. Et sinon, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain entre 18 et 19h, toujours sur les ondes de Radio Galère. Bonne soirée, au revoir. Binti Shah.